Bonjour, vous m'entendez? Je me demande si le micro est vraiment nécessaire, mais peut-être pour les personnes qui sont le plus au fond, ça le sera peut-être. Eh bien, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je vous prie de m'excuser pour mon petit retard. La technique, ça nous trahit parfois. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui deux sculptures qui viennent des réserves. Vous connaissez peut-être l'exercice. En fait, à peu près tous les mois, certains de nos collègues font sortir des réserves, des objets sur lesquels nous venons de mener des études, soit des études exhaustives, soit, pas à l'inverse, mais des débuts d'études. Aujourd'hui, nous sommes en train. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire du musée. Le musée a ouvert en 2006 et lorsque les collections ont été amenées ici, elles ont été classées, je dirais, de façon provisoire. Rassurez-vous, dans les meilleures conditions possibles, mais nous avons la possibilité d'avoir beaucoup de temps devant nous et ce qui nous permet aujourd'hui de reprendre le classement complet ou le reclassement complet de l'ensemble des collections du musée et les collections dont j'ai la charge ont la particularité d'être les collections test à travers lesquelles nous mettons en place un nouveau système de classement. Alors c'est toujours très intéressant parce que ça nous permet de faire ressortir des cartons, des objets que nous connaissions mal. Et à l'occasion du reclassement de toute la partie des hautes terres de Nouvelle-Guinée, eh bien, je suis tombé sur ces deux sculptures qui ont été acquises par le musée il y a très peu de temps. Enfin, il y a 5 ou 6 ans à peu près, peut-être même pas, en 2015, non, vous voyez, il y a 2 ans, juste avant mon arrivée, et je me suis posé la question de ces objets. Et à travers l'étude de ces deux figures, eh bien, je me suis posé un certain nombre de questions relatives à l'art et aux formes artistiques, si vous voulez, des hauts plateaux de Nouvelle-Guinée. J'espère avoir mis des cartes. Voilà. Vous avez ici sur ma première diapositive une carte. La Nouvelle-Guinée, c'est une très grande île qui se trouve au nord de l'Australie. La partie qui est en blanc sur la carte correspond à un pays qu'on appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée en français. C'est un pays à l'histoire extrêmement complexe puisqu'il s'agit de la fusion de plusieurs entités coloniales. Et encore là, je m'aperçois sur la carte qu'on ne voit pas tout le pays. En fait, il y a eu 3, voire 4 étapes coloniales successives. En gros, c'est une île où, en fait, que les Occidentaux n'approchent pas, et cela jusqu'au moins le milieu du 19e siècle. En fait, les premiers Occidentaux vraiment arrivés sur l'île commencent à s'implanter à partir de l'extrême fin des années 1870. On a quelques exceptions, des exceptions célèbres avant, mais ce sont des gens en fait qui font plutôt figure d'explorateurs ou d'aventuriers, même si leurs contributions par ailleurs à la connaissance des sociétés, notamment du littoral, sont importantes, mais en tout cas, ce ne sont pas des gens qui s'installent. Et donc, en fait, vous avez un pays qui reste au niveau du droit international un petit peu dans les limbes, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'État constitué, et malheureusement, en fait, il faut attendre une période coloniale à la fin, ou plutôt au milieu des années 1880, pour que se mettent en place deux autorités coloniales sur cette partie de l'île. En fait, on avait une autorité coloniale extrêmement vague, très théorique, mais qui explique la frontière véritablement nord-sud, on ne peut plus, si vous voulez, plus droite. Les Hollandais avaient dit qu'à partir de cette limite et en allant vers l'ouest, c'était à eux. Donc voilà, il n'y avait pas d'implantation coloniale, mais ils avaient réclamé cette terre. Personne ne réclamait l'autre terre. C'est pour ça que je vous disais, ça restait un petit peu dans les limbes du droit international. Les Allemands, alors je ne sais plus quelle est la date, ça se passe en l'espace de 2 semaines pratiquement. Les Allemands, en 1885, réclament pour le compte de l'empereur Guillaume toute la partie nord de l'île, ainsi que le grand archipel voisin, l'archipel Bismarck, plus l'île. Alors ça se fait un petit peu plus tard et dans un accord un petit peu différent. Ils réclament également la possession de l'île la plus septentrionale des îles Salomon, dont on voit juste le petit bout à la frange de la diapositive que je vous ai présentée. Les Anglais, par la voix d'officiers australiens, réclament la partie sud, cette fois-ci, de l'île pour eux. En réalité, cette réclamation ou cette conquête coloniale est extrêmement théorique. théorique dans la mesure où ni chez les Allemands, ni chez les Anglais slash Australiens, c'est-à-dire qu'en fait les Anglais ne s'installent pas en Nouvelle-Guinée, ils confient, on va dire, la gestion coloniale de l'île au moins jusqu'aux premières années du XXe siècle à leur colonie, l'Australie. Cette administration coloniale est même pas en pointillé, elle est pratiquement absente. Elle s'étoffe petit à petit dans les premières années du XXe siècle, mais il faut vraiment penser que jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a quelques petits postes coloniaux tout au long du littoral et encore. Il faut vraiment attendre les années 30 pour qu'on ait une forme d'exploration coloniale du pays. Alors on a d'un côté des coloniaux, c'est-à-dire des administrateurs au nom des couronnes respectives, donc la couronne allemande, puis et la couronne britannique. Pardon, je devrais vous donner un autre petit détail. La partie germanique tombe en 1914. Les Australiens réclament dès les premiers jours de la Première Guerre mondiale, s'emparent, sans beaucoup de faits d'armes, de la partie allemande. Et la confie donc à la couronne d'Angleterre. Non, 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 ils la gardent pour eux, pardon, puisqu'à l'époque, ils ont déjà obtenu de la Grande-Bretagne le mandat colonial. À la suite de la Première Guerre mondiale, les Australiens gèrent le pays avec deux statuts différents, ce qu'on appelle Papouas en anglais et ce qu'on va appeler Papouasie, mais je préfère garder le terme anglais parce que Papouasie, c'est aussi le terme qu'on utilise en français pour décrire l'île entière, ce qui n'est pas vrai pour le terme Papouas, qui n'est pas utilisé en anglais pour désigner l'île entière, mais qui désigne véritablement le segment colonial géré directement par l'Australie à partir, comme je vous l'ai dit, des premières années du XXe siècle. Donc toute la partie sud, ce qu'on appelait avant la Nouvelle-Guinée britannique, et ce qu'on appellera donc au tout début du moment, alors ça, je crois que c'est 1904, mais pardonnez-moi, je peux me tromper d'une ou deux années pour le changement de mandat colonial. Vous vous dites pourquoi je vous parle de cette histoire, mais vous allez voir son importance. Les Allemands donnent le terme de New Guinea à la partie nord et aux îles de l'archipel Bismarck ainsi qu'aux îles au nord des îles Salomon, donc ce qu'on va appeler Bougainville et Bouka. Et les Australiens gèrent ça sous un mandat de la Société des Nations jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en réalité, ou plutôt jusqu'au début de la guerre du Pacifique. À partir du début de la guerre du Pacifique, globalement, l'ancienne colonie germanique est conquise par les Japonais. Dans sa presque totalité. Et je dirais même plus, puisque les Japonais conquièrent largement aussi l'ancienne colonie directement gérée par les Australiens. Alors, quid de la partie centrale? En fait, si vous regardez des cartes, même des cartes tardives, encore jusque dans les années 50, vous verrez que tout l'intérieur de l'île, y compris la partie gérée par l'Indonésie, en tout cas jusque dans les années 50, eh bien, c'est un vide cartographique. Certes, on survole l'île à travers des avions, mais on va considérer pendant très longtemps qu'étant donné les sommets assez vertigineux hein, de l'intérieur de l'île, un des Mount Wilhelm, par exemple, culmine à peu près à 4 800 mètres, c'est-à-dire on n'est pas très très loin du Mont Blanc, on considère qu'en fait, ces vallées très escarpées ne peuvent pas abriter d'humanité. Je reviens un tout petit peu en arrière. Donc là, je vous ai dit une cartographie jusque dans les années 50 qui reste encore extrêmement vague et blanche. À partir, donc je reviens à l'histoire internationale, la crise de 1929 est une crise globale. Ça fait, vous le savez, je ne veux pas vous faire un cours d'économie, mais c'est un des premiers événements qui marque une globalisation économique. Et ça donc touche l'Australie de plein fouet. Une grande partie des Australiens, en fait, se tournent vers de nouvelles ressources et décident, donc à partir du tout début des années 30, de voir s'il est possible de développer des projets économiques en Nouvelle-Guinée. Ils sont largement freinés par les autorités coloniales. Assez curieusement, la gestion coloniale de l'Australie a deux principes, et deux principes dont le pays aujourd'hui est encore le pays contemporain et l'héritier. D'une part, On ne crée pas d'infrastructures. Les seules infrastructures du gouvernement colonial sont confiées plutôt à des missionnaires, voire à des colons, c'est-à-dire que les routes, les écoles, les églises, les centres de soins ne sont pas gérés par l'administration coloniale, mais sont souvent des initiatives soit économiques locales, soit liées aux missionnaires, quelle que soit leur dénomination, et elles sont nombreuses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Australiens considèrent qu'en fait, une irruption massive d'étrangers en Nouvelle-Guinée pourrait avoir un impact extrêmement négatif sur les populations locales. C'est évidemment un gouvernement colonial raciste, mais tempéré. Pardonnez ces espèces de coupages de cheveux assez tordus, mais il y a, et c'est ce qui est assez intéressant, il y a eu un gouverneur particulièrement mauvais, mais les différents gouverneurs qui se succèdent ont le souci constant de préserver les populations locales et voire de les documenter. Donc, voyez, on a ce double aspect. Ce qui fait que finalement, vous n'avez pas, comme dans d'autres parties du monde, l'arrivée massive d'Australiens pour développer des plantations, pour développer des scieries, pour développer des activités économiques, mais à l'inverse, des arrivées au compte-gouttes. Et les premiers en date, ce sont trois frères qui s'appellent les frères O'Leary. Leahy, pardon, pas O'Leary, mais Leahy, ils sont peut-être irlandais d'origine, mais il n'y a pas le O apostrophe de l'origine, pardonnez-moi. Le frère aîné Mike, qui est vraiment une forme d'Australien qu'on rencontre encore aujourd'hui, je ne veux pas faire de typologie un petit peu stupide, mais un personnage extrêmement, on va dire, dynamique. Enfin bon, vous me suivez. Et qui arrive dans la région de Morobe, du côté de Lae, on trouve. Alors Lae n'existe pas, c'est une petite ville qui est aujourd'hui la deuxième ville du pays, mais qui commencera à prendre son essor du fait des Américains au moment de la Seconde Guerre mondiale. Là, on est en 1931 ou 1932, ils s'installent, et de la région de Wau et Bulolo, qui sont deux petites stations, excusez-moi, coloniales. Sur une partie des rivières, on commence à chercher de l'or. Alors on trouve un petit peu d'or, on en trouve encore aujourd'hui. Hein, si vous vous baladez du côté de Bulolo, vous verrez beaucoup de gens avec vous savez, leur chapeau chinois, ces espèces de grands disques métalliques qui font de l'orpaillage un petit peu sauvage. Et donc ils grimpent la rivière, mais ils se disent, si on veut survivre à trois frères avec un petit équipement colonial, et puis comme on a tout quitté en Australie, on veut faire fortune. Donc ils remontent et ils commencent à monter et à passer dans la région qui serait aujourd'hui la province d'Eastern Highlands. Alors est-ce que vous voyez une petite ligne jaune entre Lae et Goroka? Vous voyez, c'est la route sur la carte. Je vais vous la montrer avec le doigt. Vous avez ici Lae, Wau c'est ici, moi je ne savais pas que c'était ici. Et donc vous avez à peu près ici, hein, du côté de Bulolo, vous avez les premières exploitations d'or importantes. Vous en avez partout en réalité en Nouvelle-Guinée, mais ça ne se développe pas bien. On trouve de l'or partout en Nouvelle-Guinée, mais pas suffisamment, pas de façon qui permettrait de survivre, si vous voulez. Donc les Brothers commencent à remonter une partie des vallées et arrivent du côté de Goroka et vont aller jusqu'à assez loin, ils vont aller au moins jusque après Hagen. Ils vont mettre plusieurs années à remonter en faisant des allers-retours, en construisant des pistes d'atterrissage, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce sont les premiers Occidentaux à traverser cette chaîne de montagnes. Pour ceux qui ont fait des études d'ethnologie ou pour ceux qui s'intéressent au cinéma ethnographique, il y a un film qui est un film clé du cinéma ethnographique qui s'appelle First Contact, qui raconte une double histoire. L'histoire des frères Leahy, puisque Mike et ses frères avaient eu la bonne idée d'emmener une caméra avec eux lors de leur exploration des Highlands. Ils ont fait donc toute une série de séquences filmées. Et Bob Connelly, au début des années 80, a fait revenir ces bandes et a fait discuter les gens qui avaient rencontré les Leahy, donc 50 ans avant. On était à peine 50 ans avant, donc deux générations. Et les gens racontaient leur première rencontre avec les Blancs. Si je vous raconte ça, et si j'ai fait cette longue introduction sur l'histoire de l'arrivée des Blancs dans les Highlands, c'est qu'en fait, les Blancs vont commencer à s'installer vraiment dans les années 30. Ensuite, ça connaît un coup de frein avec les années 40. Tout le monde repart avec la guerre. Il faut vraiment penser que les Australiens repartent tous. La menace japonaise est une menace particulièrement violente et la Nouvelle-Guinée, notamment tout le sud de la Nouvelle-Guinée, sert un peu de bouclier physique face à l'invasion japonaise. Et on va retrouver des poches, si vous voulez, entre Port Moresby et voyez la région de Popondetta que vous avez au nord de Port Moresby, la capitale, est entièrement occupée par les Japonais. C'est à partir de Popondetta que, si vous voulez, les Japonais vont creuser, entre guillemets, jusqu'à l'Australie en ayant, c'est simplement à l'extrême fin de 1944 que les Australiens enfin arrivent à mettre un frein à l'expansion japonaise, en fait, très largement aidés par les Américains. Qui, eux, s'installent à l'est et donc qui prennent en tenaille, si vous voulez, les Japonais. Pourquoi je vous parle de ça? Je me suis écarté, excusez-moi. Donc, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir de nouveau, si vous voulez, l'arrivée des Blancs. Si on reprend ça sur une forme d'échelle historique globale, on a donc un double phénomène de colonisation en Nouvelle-Guinée. Un phénomène de colonisation, on va dire, classique de la fin du XIXe siècle, dont les principes répondent à des principes internationaux, supériorité des Blancs sur les Noirs, à tous les niveaux, et puis un double mouvement, et une deuxième étape qui commence à partir de la fin des années 20 et des années 30. Alors certes, les Lehi, ce sont en fait des prospecteurs d'or, et on ne peut pas faire d'eux des formes de types coloniaux particuliers. Néanmoins, les missionnaires qui vont aller s'aventurer à la suite des frères Lehi et des premiers chercheurs d'or, eh bien, ne sont pas du tout les gens qui commencent à diffuser le christianisme à la fin du XIXe siècle. Les mentalités ont changé, et si vous voulez, va se développer dans les Highlands une culture du contact qui est fondamentalement différente des cultures du contact qui sont nés 50 ans plus tôt, ou presque 50 ans plus tôt, avec les bandes côtières. Voilà en fait le premier point que je voulais aborder avec vous, une colonisation différente pour les Highlands. On est dans les pays les plus récemment colonisés du monde, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Effectivement, vous pourriez me répliquer, oui, mais sur les bandes côtières. Mais en sachant qu'on n'a pas de contact vraiment direct, c'est simplement des contacts par capillarité, si vous voulez. Un village va avoir un contact avec un autre village un peu plus à l'intérieur, qui celui-ci va avoir un contact un peu plus, mais vous n'avez pas de grande route, si vous voulez, de distribution, où les gens circulent librement. Ça reste encore vrai aujourd'hui. L'avion, certes, a changé les choses, mais en fait les contacts se font un petit peu se faisaient par capillarité, c'est-à-dire vous n'avez pas de grande route, mais vous avez simplement des points de contact petit à petit. J'espère suffisamment être clair. Je sais, je connais quelques visages dans l'Assemblée, je sais que certains d'entre vous sont parfaitement familiers de l'histoire de la Nouvelle-Guinée, mais comme il y a beaucoup de visages que je ne connais pas non plus, je souhaite être le plus précis et le plus détaillé possible pour, du moins j'espère, ne pas perdre mon auditoire. Je voudrais maintenant aborder un deuxième point qui est celui de l'art des Highlands. Si vous allez sur le plateau des collections, et vous verrez, ce sont les premières salles que vous verrez quand vous visitez le plateau des collections, vous allez être invité au musée ici par l'art de la Nouvelle-Guinée et précisément par l'espace géographique dont je vous parle. Mais vous aurez beau chercher, je crois que nous n'avons pas en... Si, pardon. Quoique... Non, je crois que vous n'avez pas une seule œuvre des Highlands dans les vitrines aujourd'hui. Je peux me tromper à un ou deux contre-exemples près, mais je ne crois pas qu'on expose une seule œuvre des Highlands aujourd'hui. C'est une grosse erreur et je suis en train d'y réfléchir, il faudra que j'y remédie. Mais si j'évoque ça un petit peu en montrant notre faiblesse, entre guillemets, c'est qu'il y a une différence un petit peu structurelle qui existe entre les pratiques artistiques et la culture matérielle des régions côtières, qui sont parfois extraordinairement développées, et à l'inverse, les pratiques artistiques et la culture matérielle des Highlands de Nouvelle-Guinée présentent des traits qui sont fondamentalement différents. Ceci étant posé, il faudrait que j'apporte plein de nuances, en particulier sur la partie des basses terres. S'il existe des zones de Nouvelle-Guinée, la région du Golfe, je vais vous les montrer, pour ceux qui sont les moins familiers, je vais vous les montrer à la main, ça sera plus clair, en espérant que les gens qui sont au fond de la salle puissent m'entendre bien. Ici, toute cette zone-là,
vous avez une production artistique colossale, à commencer par une production architecturale avec des maisons, des grandes maisons, des maisons longues. Et là, on a ces maisons longues qui vont jusque là. Ici, dans cette région-là, vous avez également une production artistique colossale. Vous allez dans un village de la région de Daru et vous avez 100 dollars en poche. Vous allez rapporter 50 types d'objets différents, des baguettes, des cuillères. Tout est décoré, des paniers, tout est pourvu d'un décor. Dans la région du Golfe, c'est un petit peu différent. Vous avez simplement un certain nombre d'objets qui sont décorés, mais là encore, avec une qualité artistique absolument magnifique. Une des dernières belles œuvres qu'on a acquises ici au musée, c'est précisément une planche de cette région-là. Ici, à l'inverse, vous avez une production artistique plus limitée, et il faudra que je nuance ça. À nouveau ici, une forme d'effervescence artistique colossale. Dans la région de Pocondeta, pratiquement rien. Je réfléchissais avec un de mes collègues de l'EPHE, et lui me disait, les seuls objets qu'on décore, finalement, c'est les objets qui sont en permanence en contact avec le corps. C'est-à-dire que des objets de contact épisodique, comme un outil, ne portera aucun décor. Une cuillère, aucun décor. Un oreiller en bois, aucun décor. On se contente d'un billot de bois, d'un morceau de bambou, ça suffit. Par contre, le vêtement en tapas qu'on va porter sur le corps, lui, va être pourvu d'un riche décor, etc. On remonte un petit peu. Ici, très peu de production artistique. On en sortira au mois de mars l'année prochaine, je vous le dis parce qu'on est en train de construire ce projet. J'invite un de mes collègues qui s'est marié avec une femme de cette région-là. Et on a les plus anciennes collections historiquement constituées en tant que collection sur la Nouvelle-Guinée viennent de cette petite région-là. On a la seule collection au monde ici et on a le spécialiste qui va venir au mois de mars, donc on va faire toute une série de présentations. Mais au mois de mars, ne partez pas en vacances, restez à Paris. Ici, vous avez, sur le littoral, pas à l'intérieur des terres, vous avez une collection artistique colossale, et puis évidemment, celle que vous connaissez, c'est toute la tradition masquée qui commence à partir de Madeleine et qui se développe jusqu'à Manimo. Et là, vous avez une forme de feu d'artifice, c'est d'ailleurs à travers cette région-là qu'on présente, qu'on introduit même tout le musée, en pensant que c'est suffisamment spectaculaire pour pouvoir... on va dire, éveiller le regard des visiteurs jusqu'au bout du parcours, c'est-à-dire jusqu'au bout de l'Amérique. Si je vous dis ça, c'est pour vous présenter en fait un climat ou un système plutôt en contraste.
Et à l'inverse, toute cette partie-là qui correspond à ce grand vide dont je vous parlais sur la cartographie jusqu'aux années 50,
eh bien, nous n'avons pas de production matérielle particulièrement spectaculaire. Certes, on trouve ça et là des ceintures, on pourra trouver des boucliers, ben voilà, si il y a des boucliers des Highlands en exposition ici, vous pourrez aller les voir, c'est les seuls, excusez-moi, objets qui viennent en contrepartie. Pourtant, on a bien une culture matérielle spécifique. Au tout début des années 70, deux des plus grands chercheurs de l'anthropologie contemporaine qui ont eu la bonne idée de travailler sur la Nouvelle-Guinée, eh bien, pose comme principe qu'on va avoir un art dans les Highlands, et un art particulièrement développé, mais pas un art muséographiable. Une culture matérielle, certes, mais pas une culture matérielle qu'on puisse mettre dans des vitrines du musée. C'est le corps humain qui va être l'objet d'une attention artistique. D'autres personnes, et des gens particulièrement brillants, Michael O'Hanlon, qui pendant très longtemps a dirigé le département, une partie des départements du British Museum, et qui a fini sa carrière en tant que directeur du Pitt Rivers à Oxford, il vient de prendre sa retraite, a écrit toute une série d'ouvrages que je vous recommande, qui sont les premiers grands ouvrages généraux sur la culture matérielle des Highlands, en se particularisant sur une toute petite région que je vais vous montrer, qui est cette région ici. Il est chez les gens de la vallée de la Wagi et il écrit un livre qui est une réponse au double livre de Marilyn et d'Andrew Strattern qui s'appelle Reading the Skin, où là encore, il prend un point de vue différent de celui des Strattern, mais finalement, les conclusions tout en étant différentes, ce qu'on peut retenir et ce qui rapproche les deux ouvrages, c'est qu'évidemment, on met l'accent sur la parure du corps comme fondement de l'esthétique et de l'expression sociale dans une grande partie des sociétés des Highlands.
Est-ce que j'en suis ? J'essaie de suivre. Ah, bah oui, j'en
c'est bon, je suis toujours en place. Ah ben voilà, là on a une carte un petit peu plus un peu meilleure des Highlands. Donc, peu de culture matérielle. Dernier ouvrage, avant de vous en citer d'autres, un peu ancien, en 88, si ma mémoire est bonne, il y a un autre anthropologue britannique qui s'appelle Paul Sillitoe et qui a travaillé longtemps au British Museum et qui écrit un énorme pavé qui s'appelle Made in New Guinea. Et c'est un ouvrage que je vous recommande. Alors, lisez-le de bout en bout. Moi, je l'ai lu déjà 3 fois. C'est énorme. Ça doit faire 600 ou 700 pages. Et ce n'est pas un petit ouvrage universitaire. Non, c'est un gros ouvrage. Donc, en fait, il y a plein de petites colonnes. Et ça prend des années à lire. Mais c'est en fait quelqu'un qui se dit, je vais tout étudier dans un village. Il y reste plusieurs années et il étudie tout. Il rentre partout. Il dit, combien tu as de flèches? Combien tu as de filets de portage? Combien tu as de pierres pour supporter les braises et la poterie ou la peau qui va au-dessus? Combien tu as de poteaux dans ta maison? Combien d'heures tu travailles dans ton jardin, je dis tu, parce que ça, ou combien vous, enfin, vous traduisez comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il va avoir il va compter le nombre d'heures pendant lesquelles les enfants travaillent, combien d'heures les femmes travaillent au jardin, à la cuisine, à soigner les porcs, combien les hommes passent de temps à aller à la chasse, combien de marsupiaux ils ramènent en un mois, à quelle saison, etc. Ce qui fait qu'on a des données chiffrées sur absolument tout. C'est un travail d'une méticulosité extraordinaire, mais tout à fait remarquable. Alors, en fait, le résultat du travail de Paul Sillitoe va un petit peu à l'inverse des présupposés des De Stratton et de Paul Sillitoe et de Michael O'Hanlon dont je vous parlais tout à l'heure, parce que lui, évidemment, il va mettre en évidence l'importance des ornements corporels dans la culture matérielle, mais il va mettre également en évidence toutes sortes de choses et il va faire des chaînes opératoires sur à peu près tout, la fabrication des flèches, la fabrication des haches, la fabrication des perruques, la fabrication des filets de portage, sur absolument tout. Et il va dénombrer des centaines d'objets. Donc en fait, Paul Sillitoe, finalement, vient à l'inverse même de ce que je racontais, une culture matérielle, pas forcément une culture matérielle portée sur l'esthétique, c'est-à-dire que beaucoup d'objets ne présentent pas de décor en tant que tel, mais font l'objet d'un traitement systématique et intéressant. Voilà. J'ai terminé ma deuxième petite partie. Je vais aborder la troisième partie, qui va être peut-être visuellement la plus peut-être stimulante pour vous, avant de commencer à parler de ces deux objets. Vous voyez, je fais un peu comme Colombo, je pars par la fin pour arriver jusqu'au début. Dans les années 50, et un de mes collègues, et je vous recommande là encore la lecture de tous ses écrits, c'est quelqu'un que j'estime énormément, d'abord par sa qualité humaine et aussi par la qualité de ses travaux. C'est un ethnomusicologue qui s'appelle Don Noyes, qui est arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée au tout début des années 90, qui s'est marié sur place et qui a eu la charge de développer à Port Moresby un institut d'études musicologiques. Et avec on partageait les mêmes moyens à un moment donné, donc je connais très bien la manière dont il travaillait. Avec des finances particulièrement limitées, il arrive à publier un ou deux ouvrages d'immense qualité sur l'ethnomusicologie. Donc il sait toutes sortes de choses et c'est quelqu'un qui a une réputation tout à fait internationale. Et simplement, il y a 5 ou 6 ans qu'il a pu finaliser sa thèse. J'étais un de ses directeurs de thèse à l'université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, thèse absolument remarquable sur la présence de la musique dans la région de Mount Hagen. Vous vous souvenez un petit peu au centre vraiment du pays. Et une grande partie de une partie très intéressante de sa thèse est consacrée à la naissance des shows, ou ce qu'on appellerait en français des festivals. En Australie, et en fait, historiquement, il faut remonter même jusqu'à la terre patrie, jusqu'en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, pendant tout le 19e siècle, et puis encore aujourd'hui, une grande partie de l'activité sociale va se dérouler autour de festivals agricoles. On va, dans les villages, dans les régions, etc., organiser des grands rassemblements où on montre les produits agricoles. Ce type d'organisation sociale se développe évidemment en Australie en parallèle et logiquement arrive en Nouvelle-Guinée. Ce qui distingue la Nouvelle-Guinée des côtes et la Nouvelle-Guinée de l'intérieur, c'est l'altitude, mais également le climat. vous avez des grandes vallées avec des climats relativement tempérés. Il peut parfois geler. J'ai heureusement jamais fait l'expérience, mais je me souviens, parce que j'ai vécu pas mal de temps dans la région de Goroka, et se laver dans la rivière le matin, c'est un peu comme se laver dans la rivière dans les Alpes au mois de mars, hein, quand même. On serre vraiment fortement les dents. Et j'avais des copains qui me disaient, parce que moi, il faut quand même que je me lave au moins une fois par jour. Et j'étais avec les Azaro, et puis je dis, ah bon, on va se laver. Oui, bon, on y va. Donc, on y va tous. Je vais avec mon morceau de savon, ma serviette, ils vont avec leur serviette, etc. Puis tous, ils étaient à me regarder. Je dis, mais vous ne voulez pas vous baigner? Ah ben non, on s'est déjà baigné mercredi dernier, ça va. C'est vraiment... Bon, pardon, je reviens à mes moutons. Mais en tout cas, vous avez un climat tempéré, un sol extrêmement riche, et qui peut faire pousser toutes sortes de choses. Donc, si vous voulez, les colons australiens se disent, mais voilà, c'est un endroit idéal pour faire des grands shows culturels. Le premier show agricole, ou la première foire agricole qui a lieu, Don Niles a eu le grand mérite de pouvoir en trouver des traces d'archives, en sachant que c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de journaux dans les années 50 en Nouvelle-Guinée et les informations ne sont pas toujours fiables parce qu'on n'a pas des représentants journalistiques qui vont dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est extraordinairement compliqué et lors de la couverture des dernières grandes élections, les élections régionales pardon, qui ont eu lieu au mois de juin, on n'avait pas des journalistes dans tous les endroits du pays, même encore aujourd'hui. Donc c'est difficile. Alors on obtenait les informations par téléphone, mais dans les années 50, ça n'était pas le cas. Donc en fait, la première date, c'est 1955, on a une première foire agricole de Goroka, et il semble qu'à cette époque, à ce moment-là, des gens, sans doute simplement de la région de Goroka, vont venir pour danser. Ils vont venir avec leurs costumes traditionnels, ils vont venir danser. 5 ans plus tard, on en a plusieurs, on en a sans doute 2, et puis en 61, si ma mémoire est bonne, on a un grand show qui est là, cette fois-ci, très bien documenté, dans la ville de Monthagen, pas très loin. Et on pense qu'au moment du show de Monthagen, ce ne sont pas uniquement les Melpa, les gens qui sont aux alentours de Monthagen, qui viennent danser, mais on a déjà d'autres groupes qui viennent se fédérer tout autour. Et très rapidement, au cours des années 60, on va avoir, comme ça, les shows agricoles qui vont à la fois exploser et imploser. Je m'explique. C'est-à-dire que le prétexte agricole va complètement disparaître. Moi, je me souviens avoir vu un coffee festival à Goroka les années où je suis arrivé en Nouvelle-Guinée. Et je m'attendais effectivement à une foire agricole comme on en a en Grande-Bretagne. Je ne me souviens pas de beaucoup de stands, et le seul stand agricole que j'ai vu était complètement phagocyté par d'autres choses, et précisément par des gens qui venaient de toute la région, pas simplement de Eastern Highlands, mais de toutes les provinces avoisinantes. Goroka se trouvant aujourd'hui sur une route, il est relativement facile d'y venir, moyennant quelques quinas, et les gens, et je pourrais vous en parler un petit peu plus, mais ce n'est pas vraiment le sujet de l'étude aujourd'hui, venez. Alors, je vais vous montrer toute une série de... j'ai pris surtout des photos. Alors, ça, c'est le show de Monthagen en 2006, si ma mémoire est bonne. Et j'avais choisi celle-là en photo introductrice. Donc, ce sont des gens de Simbu, vous voyez, et en fait, les groupes eux-mêmes vont se distinguer, et j'en reparlerai tout à l'heure, vont se distinguer par des accoutrements particuliers. Et en fait, le conglomérat, si vous voulez, de groupes différents, va forcer chacun des groupes culturels à accuser des différences culturelles fortes. C'est-à-dire que là où on pouvait avoir une forme de continuum en termes de ceinture, en termes de parure, eh bien, vous allez avoir relativement rapidement, et sans doute se mettre en place dès les années 60, des caractérisations très très fortes d'un groupe à l'autre. Et deuxième effet, et je vais en parler assez souvent, la naissance de groupes culturels ex nihilo. Des gens veulent participer, veulent se faire remarquer, et vont donc créer de la différenciation culturelle. Chose assez curieuse aujourd'hui, vous verrez des tas de livres, et notamment la pire des littératures photographiques sur la Nouvelle-Guinée, c'est justement cette littérature sur les festivals de danse en Nouvelle-Guinée, où les gens vous disent, voilà, j'ai vécu immergé en Nouvelle-Guinée. Pas du tout, ils ont passé une semaine, 3 jours à Goroka, 3 jours à Monthagen, ils ont fait 10 000 photos, et voilà, ils reviennent avec un livre. Je peux vous en montrer, il y en a ici pas mal, enfin bon, peu importe. Ce qui distingue les groupes les uns des autres, c'est leur en anglais ils disent attire, c'est-à-dire leurs ornements corporels, mais également la présence, comme vous le voyez sur la photo, de pancartes qui indiquent leur province d'origine et le nom qu'ils se sont donné, souvent un nom en langue vernaculaire avec une descriptif assez particulière. Alors là, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a des boucliers. En fait, c'est le groupe de devant qui doit venir de Simbu, parce qu'en fait, les gens avec les boucliers sont de toute évidence des boucliers de la Wagi. Voilà des gens de Simbu, des femmes de Simbu, qu'on reconnaît assez facilement avec les grandes plumes de paradisiers. C'est des paradisiers qui ne possèdent que deux plumes de ce type, qui poussent au niveau sur les côtés du bec. C'est des tout petits oiseaux qui sont grands comme ça. Le corps, il est grand comme ça. Vous voyez la taille de la plume, c'est les longues plumes noires. Donc, ça forme des oiseaux assez particuliers. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça mériterait un traitement à part entière. Vous voyez toujours la présence de ces pancartes qui indiquent ici Kwoiwai Culture Group Bounds. Western Highlands Province. Alors, Bounds, aujourd'hui, s'est passé dans une autre province. Il y a 5 ans, et il y a eu... En fait, ce qui est assez amusant, c'est que dans les années 30, il y a une seule province pour les Highlands, et tous les 10 ans, on subdivise. Aujourd'hui, il y a pratiquement une dizaine de provinces pour les Highlands. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis, avec des créations culturelles, comme vous l'avez ici sur la photo, un personnage entièrement recouvert de mousse d'arbre, qui, évidemment, n'appartient à la fois appartient à la tradition et n'en appartient pas. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de créations culturelles qui sont nées avec ces festivals. Ce qui est assez intéressant dans la naissance de ces festivals, c'est qu'évidemment, on pourrait se dire qu'il s'agit d'un art colonial ou lié au monde colonial, le contexte, celui des foires agricoles, la présence coloniale, la présence de nombreux blancs, vous en avez quelques-uns sur la photo, si vous regardez en arrière-plan, et moi-même en tant que photographe, je suis un témoin privilégié, habitant là-bas, moi je m'arrangeais en fait pour prendre quelques jours de vacances au moment de l'indépendance, le festival de Hagen, si ma mémoire est bonne, c'est fin août, et celui de Goroka, c'est tout début septembre. Et donc, en fait, vous allez avoir, comment on pourrait dire, des lieux de rencontre et la naissance de formes culturelles inédites liées à ce contexte. Formes culturelles totalement nouvelles, ici, des genres de Chimbu, cette skeleton dance qui est devenue aujourd'hui traditionnelle. Au bout de 15 ans d'existence, tout le monde s'attend à voir de skeleton dance sur les festivals. Vous allez avoir, et ça me semble particulièrement intéressant, une forme de regard en miroir sur eux-mêmes. Vous avez ici un groupe de danse, qui est le groupe des Kanaka, des primitifs. En fait, un certain nombre de groupes vont se représenter eux-mêmes dans un contexte colonial. Vous avez le faux policier dont vous pouvez voir le fusil mitrailleur entièrement sculpté en bois à l'arrière-plan, qu'on reconnaît avec son baret bleu. Vous ne le voyez pas de près, mais il faut voir. Alors, est-ce qu'on voit ? Moi, je le vois, mais il faut le savoir. Ces lunettes, qui sont des lunettes miroirs, sont partiellement recouvertes de boue d'ocre rouge, comme le reste des porteurs. En fait, il s'agit d'une patrouille coloniale qui est mise en scène ici, avec l'ensemble des porteurs, qui étaient les primitifs, si vous voulez, qui, en fait, suraccusent leur primitivisme en ayant sur eux des ocres qui sont d'habitude dans les Highlands la tribu des funérailles, et puis surtout en se couvrant la tête de végétaux, ce qui renvoie à l'univers de la forêt et du primitivisme. Et alors, évidemment, ma photo ne rend pas compte, mais il y a une forme de gesticulation extrêmement outrée qui va renvoyer au monde primitif. Si j'ai pris cette photo un petit peu comme photo d'articulation, c'est que finalement, elle pose un très grand nombre de questions sur la représentation de soi. Dans ces festivals, on va avoir une occasion de se mettre en scène de mettre en scène des costumes traditionnels. Je reviens rapidement en arrière. Ici, vous avez un costume qui obéit à une tradition dont on connaît la genèse et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'études ethnographiques. Des costumes plus nouveaux, et là on a une littérature qui, sans être abondante, il y a au moins un très très bon article dessus, c'est l'article de Ton Otto et de Roberta Colombo sur les mudmen. Je crois que j'ai quelques photos des mudmen un petit peu plus tard dans mon slideshow, qui évoquent bien la manière dont se mettent en place des nouvelles traditions. C'est-à-dire que ces festivals culturels donnent naissance à des cultures ex nihilo, comme ces Skeleton Dance, regard sur le monde colonial, et puis toute une série, voilà, je crois que maintenant toutes les photos que je vais vous montrer sont des photos qui évoquent justement cette forme de naissance culturelle. Ici, des femmes de la région d'Okapa, si ma mémoire est bonne, donc dans Eastern Highlands, on va retrouver des coiffes classiques de la région d'Okapa, mais on va avoir surtout des vêtements qui le sont beaucoup moins. On va avoir avec la technique dite du biloum, qui est un système de boucles qui permettent de faire des grands filets de portage. Ici, des collerettes, des soutiens-gorge et des jupes, ainsi que des colliers. Ici, la représentation avec des sacs de riz montés sur des structures en rotin et en bambou, des avions et des immenses masques. Il y a certains masques. Est-ce que j'ai pris la photo? Non, malheureusement, je n'ai pas la photo. Vous avez dans ce cortège-là, là, on est à Goroka, si ma mémoire est bonne. Vous aviez des masques à deux porteurs, un immense arc-en-ciel qui faisait à peu près 5 mètres d'envergure avec deux porteurs, un porteur de chaque côté pour pouvoir supporter l'arc-en-ciel. Donc des créations qui certes ont une antériorité mais qui se déploient dans un contexte nouveau avec des matériaux nouveaux et qui sont là véritablement pour pouvoir créer de la distinction d'un groupe à l'autre. La création la mise en évidence et la mise en relief d'un système de distinction est véritablement quelque chose qu'on retrouve ailleurs en Mélanésie et qui se donne lieu. On a, y compris pour des groupes qui ne viennent pas des Highlands, ici des femmes de la région de Madeng, reconnaissables à leur costume, à leur maquillage, mais pas forcément reconnaissables à leur coiffe. Ici, vous reconnaissez des guirlandes de Noël en matière argentée. Donc tous les matériaux peuvent servir à créer de la distinction. Quelques mots enfin sur les mudmen, dont les villages sont situés à proximité de Goroka. Goroka, qui est une ville pas forcément très très grande, mais qui a la particularité d'être le siège de très nombreux organismes non gouvernementaux, d'une université et de plusieurs sièges sociaux importants. Et donc vous avez de très nombreux étrangers qui sont de passage à Goroka. Et quand vous prenez, c'est une demi-heure, 35 minutes de voiture, donc très peu, c'est quoi, c'est 10 km, donc il faut les faire, les 10 km, à l'extérieur de Goroka. Vous avez les petits villages de Mambo et de Kumunive. Ici, je m'étais caché dans une des maisons de Kumunive et je photographiais la rencontre entre un groupe d'Américains et les mudmen à la fin de leur show. Ici, la préparation du show autour du feu. C'est qu'on va créer une forme de mise en scène. La présence on va faire des feux de feuilles vertes de façon à créer une forme de brume un petit peu inquiétante. Et puis, ça se trouve juste auprès d'un ravin. Vous avez également tout un petit commerce qui se met en place. Ici, une des familles qui m'avait accueilli, qui, en fait, pour arriver sur l'espace de danse où on accueille les touristes, il y a toutes sortes de petits marchands qui vont vendre des réductions de mudmen en terre cuite. En terre crue. Vous les voyez au premier rang. Voilà les petits stands. Où on vend ces petits objets. Donc en fait, ces festivals, cette mise en place d'un dynamisme culturel qui invente des traditions, va donner naissance à des arts plastiques nouveaux. En même temps que se met en place les grands festival de danse, vous avez la naissance à Port-Moresby des premières grandes écoles d'art où on veut créer un art contemporain spécifiquement mélanésien au même moment que à Port-Moresby et un peu partout dans le pays, on imagine ou on se met à réfléchir à un système politique alternatif. La fin des années 60, le début des années 70, c'est les grandes années Brejnev, c'est en fait un retour d'une guerre froide assez musclée, et lors de la décolonisation des îles du Pacifique, on imagine des systèmes politiques qui soient ni capitalistes, ni marxistes. Et on va mettre en place des systèmes mélanésiens. Chose curieuse, c'est aussi le moment où se développent ces grands festivals. Donc en fait, on va mettre en avant les cultures mélanésiennes, quitte à créer la culture mélanésienne pour faire face à la modernité ou pour créer une modernité mélanésienne qui ne soit pas forcément une modernité, si vous voulez, qui suive les grandes idéologies de la fin des années 60. Ici, quelques œuvres, parmi les premières œuvres de Gyikmaï Kundun, beaucoup de ces œuvres de Gyikmaï, les premières œuvres de Gyikmaï ont disparu. Il s'agit d'œuvres qui ont été créées pour les premiers grands monuments liés à l'émergence du pays en tant que pays indépendant au début des années 70. Ce sont des œuvres, celles de gauche, je ne me souviens plus pourquoi elle avait été faite, celle de droite, elle existe toujours, c'est un des petits chapeaux d'un des petits kiosques du Musée national. Vous avez ici une photo, je n'ai pas retrouvé dans mes archives des sculptures de lui, vous avez ici une photo de quelqu'un qui a formé justement Gyikmaï et qui est le premier des artistes à utiliser le fer en 1971-72, donc on est 3 ans ou 4 ans avant l'indépendance du pays. C'est le premier sculpteur à être embauché par l'école d'art de Port-Moresby. Ruki Fame vient d'Eastern Islands. Gyikmaï Kundun vient de Chimbu, donc deux provinces des Highlands. Chose assez curieuse, la statuaire, les grands arts plastiques du début de la Papouasie-Nouvelle-Guinée indépendante, c'est l'œuvre des Highlands. Alors je vous avais dit au départ, mon postulat de départ, c'est de dire il n'y a pas de culture artistique dans les Highlands. Vous voyez que je suis en train d'y aller à la hache si vous voulez, postulat de départ. En réalité, les années 60 forment un creuset où vont émerger des pratiques artistiques qui sont finalement d'une très grande complexité, qui ne sont pas simplement un art du tourisme dans la mesure où il ne s'agit pas d'un échange blanc-noir. Nous, on veut s'affirmer contre une autorité coloniale, puisque l'autorité coloniale, elle est en train de céder, tout simplement comme un fruit mûr, si vous voulez. Il n'y a pas eu de lutte pour l'indépendance en Nouvelle-Guinée. Certes, il y a eu des luttes pour la reconnaissance des droits des populations locales. C'est normal, et ça peut être parfois même très violent. Ça reste encore aujourd'hui le cas. Je vous en renvoie à des polémiques aujourd'hui particulièrement malheureuses qui opposent l'Australie et la Nouvelle-Guinée à propos des camps de réfugiés de Manus. Un jour, j'aimerais bien pouvoir faire venir quelqu'un ici, parce que ce qui est en train de se passer à Manus, c'est particulièrement révoltant. Bon, je m'éloigne. Je reviens à mes moutons. Mais, si vous voulez, se met en place des cultures et des éléments culturels qui sont plus la rencontre, en fait, de gros groupes culturels et qui, ces rencontres, vont donner naissance à d'autres productions artistiques et à une forme inédite de production artistique. Toujours dans les Highlands, mais cette fois-ci localisée, la production de sand painting, introduite sans doute par un professeur d'art plastique australien basé dans la région de Wabeck, qui est la capitale provinciale de Enga. Vous prenez des pierres de couleurs différentes que vous écrasez pour créer des sables de couleurs différentes, et avec de la colle, vous tracez des lignes sur un panneau d'isorel, et ensuite vous saupoudrez une pierre particulière, vous laissez sécher, vous refaites ensuite vous faites un nouveau tracé, vous mettez un nouveau saupoudrage avec une couleur différente pour créer, y compris, vous voyez, des dégradés assez subtils. Je vous les montre. Vous voyez, au niveau du corps, par exemple, vous avez toute la musculature, au niveau du visage, vous n'avez pas simplement les tours noirs qui sont caractéristiques, qui vont être classés d'ailleurs en dernier dans la composition, mais vous avez la mise en place de schémas de nuances assez subtils. Vous voyez d'ailleurs, excusez-moi, que les œuvres sont signées, donc vous avez la naissance, enfin d'ailleurs depuis longtemps, d'un système de revendication de droits d'auteur. Alors je vais placer maintenant sur ces objets.
Je vous les montre rapidement. Il s'agit de deux figures dont on ne connaît pas l'origine. Alors, je vais vous proposer une série d'interprétations. Il s'agit de deux figures en vannerie qui représentent ici un homme. Je ne vais pas tellement l'incliner plus, je vous inviterai à venir les voir un petit peu tout à l'heure. En vannerie, recouvert de peinture qui correspond à aucune peinture corporelle que j'ai pu identifier. En revanche, les vêtements, la ceinture, le pagne, le petit panier et la coiffe ici sont des choses qui sont plus facilement identifiables. Et vous avez sa compagne. Me pose un certain nombre de problèmes. Elle possède une dent de cochon, ce qui n'est pas forcément très très facile, et puis elle possède une traîne, ce qui est tout à fait improbable. Ça ne correspond à aucun vêtement connu. Je pense qu'en réalité, il s'agit de quelque chose d'un petit peu vaguement fait. Si on devait imaginer le vêtement, il faudrait imaginer le pagne que vous avez derrière revenir vers l'avant, se glisser vers la petite ficelle que vous verrez tout à l'heure quand vous approcherez, et revenir par l'avant. En même temps, il faut penser que ce type de pagne, ça forme, si vous voulez, un très long ensemble. La plupart des pagnes commencent à peu près ici et vont s'achever à peu près à cette fin de la table. Vous avez un pan qui passe par derrière, on le glisse sous une ceinture, ça repasse entre les jambes et ça revient par devant. Voilà. Alors ces objets, ce sont des objets très intéressants et je suis particulièrement heureux qu'ils aient pu intégrer les collections. Ils appartiennent à une tradition, mais qui me pose problème. Je vous montre, en fait, sur la diapositive, vous avez deux schémas qui ont été publiés par Roger Neusch dans les années 70, et qui font l'inventaire de très grandes figures culturelles qu'on appelle des Yupin ou Yupini, dont on connaît une petite vingtaine d'exemplaires grand maximum à travers le monde. C'est des figures extrêmement rares. Je vais vous montrer d'autres photos de celles qui sont connues. Vous en avez ici deux qui se trouvent à Sydney aujourd'hui, et vous voyez d'ailleurs que celle qui est représentée sur la photo, qui est également à Sydney, a été achetée au Monthagen Show de 1971. Chose intéressante, en 1971, donc vous avez des gens de la région de Enga qui vont arriver jusqu'à Mondragon. Ce n'est pas très très loin, certes, mais ce sont deux cultures différentes et surtout deux cultures très antagonistes qui viennent lors de ces shows. Et ces shows deviennent des lieux d'échange, non seulement, on va dire, de point de vue, mais également d'objets. Et ces objets vont être vendus à des officiers coloniaux. Thaksin, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Sa femme, Margaret Thaksin, vous la connaissez peut-être, puisque c'est la grande figure de la poterie, des études sur la poterie en Nouvelle-Guinée. D'autres figures aussi. Et en fait, Roger Neusch explore toutes les archives possibles et a fait, donc, de façon assez précoce, finalement, c'est un des premiers grands articles. En même temps, c'est publié à peu près en même temps que l'article de Marilyn et Andrew Stratton, pas l'article, le livre de Marilyn et Andrew Stratton sur la parure corporelle. Le texte très long de Roger Neusch, en fait, est un des premiers consacrés aux arts plastiques dans les Highlands, donc dans cette région d'Enga. Enga, c'est la province qui se trouve le plus au nord et le plus à l'ouest de toutes les provinces des Highlands. C'est une des provinces les plus peuplées, mais également les moins desservies par les services. C'est assez curieux, et c'est la seule province de Nouvelle-Guinée où vous avez une seule langue qui soit parlée. Alors on a ce qu'on appelle les langues Enga des frontières, border Enga language, c'est-à-dire en périphérie de la province, vous avez des langues qui sont affiliées, si vous voulez, au Filum, mais qui ne sont pas exactement de la langue Enga. Mais vous avez à peu près 400 à 450 000 locuteurs d'une seule même langue, ce qui est tout à fait unique en Nouvelle-Guinée. C'est le seul groupement, si vous voulez, linguistique de cette taille. Et alors, les figures Yupin, dont on connaît finalement pas très bien les choses. Alors, vous les trouverez dans la littérature comme des figures liées à l'abondance. Mais en même temps, quand on étudie les rituels tels qu'on les connaît à travers la littérature, c'est pas du tout le cas. Je ne veux pas faire de l'anthropologie un peu bêta, mais vous avez deux grands types de rituels. Vous avez les rituels bénéfiques et les rituels anti-catastrophes.
Soit on fait un rituel pour mettre fin à une période de sécheresse, pour faire venir la pluie, pour mettre fin à des disettes, etc. Ça, c'est des rituels anti-catastrophe. Soit vous avez des rituels, au contraire, qui viennent, on va dire, célébrer une période d'abondance. Or, en fait, et ça, c'est ce qu'on appelle des rituels d'abondance, mais les rituels qui utilisent les Yupin, c'est des rituels qu'on utilise en cas de sécheresse, en cas de maladie, en cas de problème récurrent. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment des figures liées à l'abondance, mais plutôt à l'inverse. Et chose curieuse, en fait, ce sont des objets, enfin, ce n'est pas curieux, au contraire, c'est même plutôt classique, ce ne sont pas des objets qu'on utilise seul, mais qu'on utilise en couple. Alors, vous me direz, ben, je vous vois venir, parce que là, vous avez amené un couple. Eh bien, en fait, le couple, je n'ai pas pu le reconstituer en dehors de la photo que je vous montre sur cette diapositive, qui représente un personnage avec, dans une main, une figure Yupin ou Yupini, je vous ai dit, on trouve les deux termes dans la littérature, et puis une pierre dont on ne peut pas forcément voir la nature, et on n'a pas conservé de couple dans les musées. On sait par la littérature que, en fait, vous avez un élément masculin, la figure en vannerie, et un élément féminin en pierre, une figure en pierre. Et les deux fonctionnaient ensemble. Alors, à partir de là, est-ce que j'ai d'autres photos? Oui, j'ai d'autres photos de Yupin. Donc, tous les personnages que vous avez représentés sont des personnages masculins, soit qu'on voit le sexe de façon claire, soit que la coiffe, c'est le cas particulièrement pour le personnage que vous avez à gauche, le désigne comme un personnage masculin. Et vous verrez, je vous remontre la figure ici, même si vous avez des différences, vous reconnaissez cette coiffe évasée, qui est en fait une coiffe assez caractéristique de cette région de la Nouvelle-Guinée, qui est en fait une perruque, non pas une perruque oblongue que vous connaissez pour d'autres régions, notamment une partie des Southern Islands, mais vous allez avoir dans l'extrême sud de la province d'Enga, des perruques plutôt circulaires. Et qui sont évidemment, pas évidemment, en tout cas, elles sont réservées aux hommes. D'autres Yupin, là, vous voyez, évidemment, des hommes. Ça n'est pas besoin de vous faire d'explication ni de dessin. Dans les figures proches, vous avez deux autres figures qui ont été publiées récemment. Je vous signale l'apparition de cet ouvrage, qui est un ouvrage qui va faire date, je pense, puisqu'il s'agit d'un ouvrage énorme, consacré à l'art des Highlands à partir d'une collection qui avait été réunie pendant un temps à San Francisco. C'est la collection de John Freedy, qu'on appelle la Jolica Collection, mais qui a depuis, je crois, été largement dispersée. Et vous avez ici deux petites figures, qui, dans la notice du catalogue, sont désignés comme rituels, c'est-à-dire qu'on les accrochait à l'arrière d'une ceinture et lors d'un certain nombre de rituels dans la région qui avait été étudiée justement par Michael O'Hanlon, qu'on les utilisait. Je ne veux pas remettre en doute ce système-là. J'ai trouvé l'explication du catalogue un petit peu rapide, dans la mesure où on n'a pas de rituel qui soit vraiment décrite. En même temps, je n'ai pas de raison de la remettre fondamentalement en cause, simplement que je me pose une petite question. Voilà d'autres éléments qui peuvent se rapprocher. Ce qui rapproche cette photo de nos deux personnages, c'est le fait que vous ayez cette fois-ci un couple, un homme et une femme, qu'on identifie à travers leur parure corporelle. De façon d'ailleurs beaucoup plus claire sur les objets que je vous présente de la collection de John Freedy que c'est les figures du musée du Quai Branly. Autre figure, cette fois-ci beaucoup plus ancienne, très proche, provenant presque de la même région, en tout cas de la même province. La province n'est pas très très grande, c'est la nouvelle province de Jiwaka, qui est née de la division en deux de l'ancienne province de Western Highlands, où là vous avez une figure masculine. On ne connaît pas la figure féminine qui va avec, mais vous voyez que dans les deux cas, les figures qui sont à San Francisco et la figure qui est à Sydney aujourd'hui, vous avez bien cette perche qui permettait de la planter soit dans une ceinture, selon Michael O'Hanlon, ou peut-être dans d'autres parties du corps, peut-être dans une coiffe. J'avais surtout envie de rapprocher ces deux figures de ce qu'on appelle en anglais les Mendy Dolls. Alors les Mendy Dolls, ce sont des figures qui apparaissent à la fin des années 90, qui sont faites dans de la résine, des fibres végétales et des fibres de bananier, et qui représentent des couples, et que vous trouverez par centaines en Nouvelle-Guinée. Ici, je vous montre deux figures, on n'en a pas dans les collections, mais j'en ai pris deux qui étaient sur le marché de l'art à Paris il n'y a pas si longtemps. Vous retrouvez sous une forme assez drôle. Alors là, je pensais que c'était un couple, mais évidemment, ça n'est pas un couple, ou alors c'est un couple, on va dire, moderne. Avec le personnage barbu, je viens de le réaliser en fait en regardant le. J'aurais dû vous trouver un vrai couple. Vous avez une femme et un homme d'habitude. Là, vous avez deux hommes, de toute évidence. En plus, ça, ils ont les mêmes ornements corporels, avec une vision un petit peu maladroite, voire assez laide des grands éléments de bambou. Vous n'en avez pas ici. J'aurais bien aimé qu'on en ait sur cette figure-là. Vous avez normalement, quand vous faites participer à des grandes cérémonies ostentatoires, comme ce qu'on appelle les tis dans la région de Wabeck, ou les mokas de la région de Montagen, vous avez donc des personnages qui vont prendre de l'ascendant sur le reste du groupe social et qui vont distribuer des centaines de porcs. Et en fait, à chaque participation à une moka ou une tie, vous allez pouvoir ajouter sur un collier un nouveau rang de petits bambous. Et vous avez ici des éclisses de bambous coupées qui sont la évocation un peu maladroite, sans doute même mal comprise en interne de ce qu'ils signifient ces petits ornements. En tout cas, ce qui apparaît dans ces photos, excusez-moi, c'est le goût du détail pittoresque, la volonté de reproduire avec beaucoup de fantaisie et beaucoup de pittoresque les ornements vestimentaires, mais également comment on appelle ça, les détails anatomiques. Alors, une barbe et des dents, et vous sentez bien que le sculpteur a pris non seulement un soin, mais un plaisir immense à le faire. Ah, mais c'est ça que je voulais faire, je ne l'ai pas retrouvé. Vous avez le goût de l'anatomie sexuée poussé si loin que, en fait, vous pouvez soulever les jupes et vous aurez tout, y compris les poils pubiens, qui sont reproduits avec une forme de plaisir assez communicatif. Et j'ai un de mes collègues du CEPI qui regardait sous une jupe de mon propre couple de Mandy Dolls, qui est en train de hurler de rire. Et là, c'est une photo géniale, mais que je n'ai pas retrouvée à temps. Voilà un vrai couple. Cette fois-ci, vous voyez mieux. Cette fois-ci, c'est un couple plus classique, on va dire, pardonnez-moi, avec l'homme et la femme. Et vous voyez les attributs particulièrement distincts et que vous retrouvez également sur les figures ici. Alors, vous avez également, et ça c'est des figures beaucoup plus anciennes, qui se trouvent également à Sydney. C'est à Sydney que vous avez sans doute la collection, certes pas forcément importante en nombre, mais la plus spectaculaire en œuvre justement du tout début de ces foires et de ces fêtes, ces grands rituels. Ici, des figures qui font pratiquement 1,20 m ou 1,30 m de long, donc qui sont beaucoup plus grandes que celles-là, et qui ont été rapportés par Stan Moriarty, qui est justement un de ces officiers coloniaux qui constituent l'essentiel des collections de Sydney, qui ont le mérite d'être publiées. Et puis, dernière chose, cette fois-ci, des œuvres rituelles. Les Timbuwara, qui étaient des esprits qu'on portait dans la région de Yalibou, sur la tête. Alors là, la conclusion, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé pendant un peu plus d'une heure, je ne sais pas quelle heure il est. Une heure, voilà. On m'avait accordé 40 minutes, je suis désolé, j'étais un petit peu long. La conclusion que je voudrais faire, parce qu'en fait, on a des objets qui n'étaient pas localisés dans l'espace. Je pense qu'on se trouve dans une production, effectivement, faite dans le contexte de ces grandes fêtes, donc ce qu'on appellerait, mais trop rapidement, de l'art pour touristes, mais il s'agit bien de l'art pour touristes, mais j'espère avoir donné en fait le contexte dans le lieu dans lequel c'est né et qui me semble être qui n'est pas simplement de l'art d'aéroport tout bête, on essaye de vendre notre identité comme ça à la va-vite, mais une forme de genèse qui est liée à cette histoire coloniale bien particulière, où finalement les premiers officiers coloniaux arrivent sans forcément, on va dire, sans forcément avoir du mépris pour les cultures locales. Une indépendance très rapidement acquise, en même temps que se mettent en place les mécanismes d'indépendance de la Nouvelle-Guinée, émergent des identités ou l'expression de culture, à la fois renforcement de culture traditionnelle dans un système de rapprochement ou de comparaison avec les cultures voisines, et naissance de culture et de formation culturelle nouvelle, en mettant en évidence et en mettant en relief, ou parfois même en caricaturant certains traits traditionnels qu'on va retrouver sur une partie des arts plastiques, comme ces figures qui naissent de grandes figures rituelles, comme les figures yupin que je vous ai montrées tout à l'heure, toutes s'en distinguant. Donc des yupin, on va prendre une partie ici pour ces objets qui sont uniques. Je n'ai pas retrouvé d'autres, il y en a d'autres, hein, mais je ne les ai pas retrouvés ou je n'ai pas vu d'autres exemples de ces figures en vannerie qui empruntent également pour la même région. Cette fois-ci, on est tout au sud de la province d'Enga, dans la région qui se trouve, si vous voulez, là d'où vient aujourd'hui le premier ministre de Nouvelle-Guinée, Peter O'Neill. Donc, au nord de Yalibou, donc si vous voulez, à l'extrême pointe de Southern Islands, et l'extrême pointe, il faudrait que je revienne à ma première carte, donc en fait, un peu à la frontière entre Enga et Yalibou, et on aurait ces figures qui empruntent des traits techniques à des figures sacrées, comme les Tibuwara, qui empruntent à d'autres figures également, comme ces grandes sculptures, les Yupi dont je vous parlais tout à l'heure, notamment les formes anthropomorphes, mais qui s'en distinguent d'abord par le goût de la narration, qui est particulièrement évidente sur ces figures et qu'on retrouve ailleurs, plus au sud cette fois-ci, dans Southern Islands, dans la région de Mendi, donc un petit peu à côté de Yalibou. Donc voyons, on est sur un espace qui fait à peu près 40 km de long, donc ce n'est pas très très long, mais en même temps, en connaissant les distances en Nouvelle-Guinée, c'est suffisamment grand pour pouvoir créer de la différenciation sociale très accusée. On a ces figures qui apparaissent. Voilà, je vous remercie. Je crois que ça devait être ma dernière figure. Vous voyez, une autre figure de Stan Moriarty qui sont aujourd'hui à... Mais cette fois-ci, eux qui viennent d'Okapa. Vous retrouvez d'ailleurs la coiffe que je vous avais montrée tout à l'heure sur les femmes avec les très beaux vêtements en biloum représentant le drapeau de Nouvelle-Guinée, notamment sur la coiffe ici. Vous retrouvez la même coiffe de la région d'Okapa. Voilà, je vous remercie. Et je vous invite à vous approcher. Je vais tourner les figures de façon à ce que ce soit plus visible. Malheureusement, mes collègues ont oublié de mettre des gants, donc je ne peux pas vraiment les manipuler. Le mieux que je puisse faire, c'est ceci.
C'est de la vannerie, tout.
C'est de la vannerie.
Uniquement le visage, le nez.
Oui, tout ça, c'est de la vannerie. Oui. Oui. Avec des éléments hétérogènes, vous avez des dents, sans doute des dents de cochon ou des dents de chien. Oui, c'est ça, des ocres naturelles. Voilà. Et ici, chez l'homme, ce qui est assez amusant, alors il faudrait que je le fasse passer à la radio, on n'a pas vraiment eu le temps, et puis comme ce n'est pas vraiment c'est des œuvres sur lesquelles on peut continuer à travailler, il n'y a aucune notion d'urgence. Oui. Vous avez ici un porte-monnaie, au sens littéral, c'est-à-dire que vous avez peut-être à l'intérieur une monnaie de nacre, ou en tout cas les monnaies de nacre étaient conservées dans des contenants un peu similaires. Parce que vous avez le petit biloum qui se trouve là, qui est tout petit, et vous avez l'étui à monnaie, et puis le petit tambour en sablier que vous avez sur le côté. Hop. Alors, Okapa. Okapa. Et donc, là où je vous ai parlé, on se trouverait ici. Vous voyez, les figures, elles viendraient de cette région-là. Là, c'est Anguilla, vous avez là. Là, vous avez les figures du Bing, du Bini, c'est de cette région-là. Vous avez ici. Nouvelle-Bretagne. Alors, attendez, je reviens sur ma carte antérieure. Bon. Elle est là, la Nouvelle-Bretagne. Donc là, la région qu'on a étudiée, elle est là. La région qu'on a étudiée, au Capa, c'est là. Vous voyez, c'est cette région-là. Oui, le masque Bailey, oui, ça c'est la galerie qui est à, comment on appelle ça, qui est rue Quincampoix, c'est ça?
Non, c'est sur le
Mars. Ah oui? J'ai vu les mêmes, c'est une galerie qui doit être rue de... Oui, ça c'est du bien Moussepic. Oui, c'est ça, c'est le Moussepic, oui. Et cette figure-là vient de Nouvelle-Bretagne, bien les Bailey, et les Bailey, ils sont là.
Oui, oui.
On en trouve jusque-là. J'ai vu les mêmes, c'est une galerie qui à l'origine, je pense, je les ai vues la semaine dernière, parce que j'ai des amis justement de Nouvelle-Guinée qui étaient là.
C'était un très beau.
Je pense que ce sont des gens de. Mais en même temps, c'est des productions, justement ça, c'est de la production pour le marché.
Pour les touristes,
pour le marché.
Ils ont
10 ans. Ah oui, non, c'est tout récent. Oui.
Continue à faire.
Ah oui, oui, c'est vraiment la production contemporaine.
Et dans ces cas-là, qui c'est qui décide au musée d'acquérir l'œuvre? Comment se décide?
Eh bien, c'est l'un des conservateurs qui soumet ça au directeur des collections.
D'accord.
On en discute ensuite avec le président. Si on a un consensus, ensuite, c'est discuté en comité. Donc, comité d'acquisition. Et puis, ensuite, si l'œuvre est... au-delà d'un certain seuil, je crois que c'est, ça dépend en fait du type d'œuvre. Ensuite, ça va passer en conseil artistique, c'est-à-dire c'est un comité qui va valider les acquisitions au-delà d'un certain seuil pour l'ensemble des musées. Donc, vous allez avoir un représentant du Louvre, d'Orsay, etc.
D'accord,
ah oui, oui, on est des collections nationales, donc on ne se dit pas, si j'achetais ça aujourd'hui, voilà, il nous reste 30 000 euros à dépenser sur notre budget, donc on va dépenser ça. Non, non, heureusement qu'on ne peut pas faire ça. Et surtout qu'aujourd'hui, à la suite d'un certain nombre d'affaires de faux dont vous avez entendu parler dans la presse autour de Versailles, la réglementation concernant les acquisitions pour les musées nationaux s'est renforcée de façon à ce que donc les processus, si vous voulez, régulateurs se sont renforcés.
D'accord. Okay. Le tourisme a changé un petit peu la façon de la sculpture moderne
oui.
En métal. Ils ont des influences extérieures qui sont...
Ah oui, oui, oui.
Ils ont certainement...
Mais si vous voulez, les gens en Nouvelle-Guinée, ils vivent dans le monde... Geekmai et Rookie Tamé sont des amis, je les voyais au moins une fois par semaine pendant 15 ans. Donc, on parlait pidgin, mais ils parlent anglais. Ils parlent leur langue vernaculaire. Éventuellement, s'ils sont mariés ailleurs... Geekmai, lui, s'est marié... dans la langue Kuman, donc avec sa famille parlant pidgin, mais en fait ils peuvent parler dans leur langue, qui sont les deux mêmes langues, lui et sa femme. Les enfants parlent un petit peu le Kuman, mais pas beaucoup.
C'est vraiment des langues.
Oui, absolument, mais le Kuman c'est une grosse langue pour la région de Chimbu. Vous avez au moins 30 000 locuteurs, ce qui est beaucoup pour une langue de Nouvelle-Guinée. Moi je travaille sur une langue où vous avez moins de 2000 locuteurs, qui est une langue moyenne. Je connais des gens qui travaillent sur des langues qui, avec 300 locuteurs, 200 locuteurs, et aujourd'hui, on essaye de récolter des informations sur des langues beaucoup plus menacées, en dessous de 100 locuteurs.
Ça va disparaître.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que les menaces sur les micro-langues, ce n'est pas l'anglais ou le chinois, non, ce sont des langues voisines. C'est-à-dire que quand vous avez une langue, par exemple la langue Denga, hein, je reviens sur ce qui se passe. Vous avez, je reviens sur ma carte, hein, ici. Vous avez ici la province d'Enga, hein, qui est surlignée en rouge. Et bien, vous avez ici, notamment vers le Sébi, là, vous avez toute une série. Et dans une autre mesure, ici, vous avez des langues qui sont des micro-langues. Et avec vraiment 100 locuteurs, 200 locuteurs, des choses comme ça. Et ces langues, elles vont disparaître non pas du fait de l'anglais, mais du fait des 400 000 locuteurs du Enga. Donc elles vont être avalées par la langue Enga. C'est donc en fait, c'est des choses vraiment d'échelle. Quand on parle de des menaces sur les langues en danger, c'est pas tant, on va dire, l'américanisme. Il y a ça, mais il y a d'autres menaces qui sont des menaces... Vous n'avez pas d'un côté les langues indigènes et de l'autre côté les langues occidentales. C'est plus complexe que ça. Vous avez vraiment des questions d'échelle. Et par exemple, c'était vous, madame, qui me demandait où se trouvait la Nouvelle-Bretagne. En Nouvelle-Bretagne, on a un groupe qui est très dominant, les Tolai, qui sont des gens qui viennent de Nouvelle-Irlande, qui sont arrivés en Nouvelle-Bretagne il y a 150 ans, 160 ans à peu près, et qui ont tendance à faire disparaître les langues du nord de la Nouvelle-Bretagne. Et le Bailing est de moins en moins parlé dans la... Donc, en fait, vous avez, c'est des questions de prestige. Les Tolai ayant confisqué pour toute la province tous les postes administratifs officiels, les gens se disent, si moi j'ai envie de rentrer et que je suis, par exemple, un Baïning, eh bien, j'ai intérêt à parler le Tolai aussi. Non, vous allez voir, c'est juste à côté. Enfin, juste à côté.
C'est des peuples qui sont très pacifistes.
Ah non.
Non.
Ah non.
On ne peut pas se promener comme ça.
Si.
Ils vont chasser.
Il faudrait que je fasse un site. Je vais proposer ça à Muriel et à Lucille, qu'on fasse un site sur la nouvelle Guinée moderne. Parce qu'en fait, c'est en France, on a tellement envie de voir ça comme un pays reculé. Et moi, je viens de passer 15 ans en Nouvelle Guinée.
La Nouvelle Guinée,
elle est là, c'est ça la Nouvelle Guinée. Et c'est un pays moderne pour moi.
Oui. Excusez-moi, est-ce que je peux reprendre le nom de l'ouvrage que vous avez évoqué, c'est une nouvelle tradition, et c'était Roberta.
Bon, alors c'est pas un ouvrage, c'est un article. Donc Ton Otto, Otto avec deux T, T-O-N, Otto, et Roberta Colombo Dubon, je crois. Mais je ne sais plus comment ça se prononce à la fin. Et c'est sur les hasards eux-mêmes. C'est un article qui est très long. Et je n'ai pas les références en tête.
Azaro.
A-S-A-R-O. Et les madmen, pas les hommes debout.
Ouais.
Pas debout. Hein.
Oui, avec la
Ça dépend. Ça dépend. Là, vous avez, par exemple. Alors, je reviens sur mes Highlands. Non, c'est des. Vous avez sur la Nouvelle-Guinée en tant que telle, vous avez à peu près 930 langues aujourd'hui identifiées. Ensuite, d'un linguiste à l'autre, ça peut changer parce qu'on va pouvoir considérer certaines fois comme des variations dialectales et d'autres non. Mais ce n'est pas forcément facile. Ici, vous avez donc une grosse langue. En fait, non, je vais vous parler d'autre chose parce que là, je connais mieux. Vous le voyez, c'est la ligne bleue qui fait des zigzags tout là. C'est un fleuve, vous voyez? Vous le voyez presque entièrement. Eh bien, vous avez des langues qui sont fortement différenciées. D'un village à l'autre, vous n'avez rien, ni grammaticalement, ni en termes de vocabulaire, quelque chose qui soit proche. Ou alors, ce qu'on pourrait avoir, c'est le mot choucroute, qui vient de Zaorkraut. Donc évidemment, Zaorkraut, choucroute, c'est bien les mêmes mots. Mais dire que, en fait, le français et l'allemand, le français, ce serait une variation dialectale de l'allemand, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui protesteraient en France. J'utilise vraiment ça, la provocation, pour dire qu'on est vraiment dans deux langues qui sont différentes. Là où j'ai travaillé, vous voyez le petit point où il y a marqué Ivon. Oui. En fait, il est mal placé, mais vous avez un autre petit village qui se trouve à moins de 3 km d'Ivon. C'est une petite île qui se trouve sur ce lac, qui fait 1 km d'envergure. On a à peu près 1500 personnes qui habitent sur cette petite île-là. Vous voyez, c'est assez dense. Hein. Il y en a un bout à l'autre du village, on ne parle pas la même langue. Mais on le classifie comme la même langue. Mais on a des variations dialectales importantes sur moins d'un kilomètre de long. Moi, quand j'ai commencé à faire le dictionnaire, alors ça, comment s'appelle ce truc? Il s'appelle Bana. Et alors, je dis, je voudrais manger des Bana. Tu veux manger quoi? Des Bana là, ça. Ah, des Bana. Excusez-moi, j'ai mal compris. Alors, je rêve Bana. Je vais Bana.
Mais tu veux manger, il doit comprendre pareil.
À peu près, de toute façon. En cas, tout ça, ça se comprend. Okay. Ah oui, quand je vais manger des banais. Tu veux manger des quoi? Tu veux dire des banas? Mais non, on m'avait dit banais. Non, t'as dit n'importe quoi, c'est banas. Et en fait, on a tous les mots qui vont varier comme ça. Et donc, on a comme ça tous les mots. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas de recul historique suffisamment grand sur la Nouvelle-Guinée pour pouvoir expliquer des espèces de grands phénomènes linguistiques. On a dit que c'était les vallées très isolées qui empêchaient les communications. En fait, aujourd'hui, on rejette cette. Ça peut être un des phénomènes, mais ça n'est pas le seul. Quand on regarde la naissance, justement, d'une œuvre néo-traditionnelle dans un contexte qui reste quand même fortement hermétique à une modernité de globalisation. On a d'autres modernités qui naissent. On se dit, si on observe cet objet-là, on est bien dans ça. Si je vous dis c'est une œuvre moderne, vous allez me dire, ben non, c'est pas une œuvre moderne, c'est une œuvre traditionnelle. On est bien, donc, si vous voulez, aujourd'hui, la multiplication des contacts en Nouvelle-Guinée a plutôt tendance à générer de nouvelles formes de différenciation plutôt que de réduire la différenciation. Est-ce que ça pourrait être ma réponse? Comment on explique une aussi grande diversité linguistique? Eh bien, en fait, la confrontation de la diversité va générer une diversité encore plus grande, des différences sont encore plus accusées, plutôt en même temps que des formes aussi d'amalgame. On a les deux choses, mais on n'a pas un phénomène unique.
Tiens, peut-être qu'ils n'ont pas d'école. S'ils avaient
des écoles. Bien sûr, ils avaient des écoles.
Mais l'école, c'est le gouvernement qui fait dans la même langue pour tout le monde.
Alors, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup du cursus primaire qui peut être enseigné dans les langues vernaculaires.
Ah, oui.
Ce qui manque, c'est les manuels pour pouvoir l'enseigner. Mais par exemple, les mathématiques, de plus en plus, sont enseignées dans les langues vernaculaires parce qu'on considère que les concepts mathématiques sont des concepts difficiles et si on utilise à la fois une difficulté sémantique et une difficulté de type mathématique, les étudiants risquent de s'y perdre. Donc, ça fait 15 ans qu'on teste ce procédé-là et on est en train actuellement d'étudier les résultats. Mais comme vous le savez, les réformes scolaires sont des réformes qui sont à la fois des réformes liées à la pédagogie et qui sont aussi des réformes idéologiques et politiques. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais si on revient à l'ancien système qui est l'enseignement en anglais, on perd ce qui fait la mélanésie. » Donc il y a beaucoup de mes collègues qui sont hostiles. Or, on se rend compte que ce système qui, a priori, était pour marcher, ne marche pas. Donc je devrais sans doute revenir à un système ancien. Vous voyez, je pourrais utiliser les mêmes mots et au lieu de dire « Papouasie Nouvelle-Guinée », je dirais « France », et les gens « Oui, bien sûr, c'est certainement ça. » Donc vous voyez, les problèmes qu'on se trouve au niveau de l'éducation sont les mêmes.
Les enseignants en Guyane, c'est pareil, ils enseignent à la fois.
Oui, mais on peut. Moi, je sais que quand j'enseignais à l'université, pour des concepts les plus compliqués, je les enseignais en anglais parce que les traduire, par exemple, en créole, je pense que j'aurais fait des erreurs. Mais je donnais des illustrations ou des cas d'exemple que j'utilisais en pidgin de façon à illustrer. Donc, toutes les illustrations, je les utilisais dans une langue qui est plus facile à comprendre pour beaucoup de mes étudiants, alors que les concepts et la partie théorique, je les expliquais en anglais. C'est très variable.
Bon, Bragel, ça doit être 150 000 personnes à 200 000 personnes. Mendy, ça doit être 80 000. Et puis sinon, vous avez des villages, si vous voulez. Ivom, c'est 600 personnes. C'est juste des petits points, donc c'est tout à fait aléatoire. Et Boroka, ça doit être 200 000 habitants. Kainantu, c'est 150 000 habitants. Okapa, c'est peut-être 6 000 personnes. Donc, vous avez des choses qui sont très, très variables.
Vous organisez des voyages,
voir
sur place.
Moi, je vais en voyage, mais je ne peux pas y aller avec vous. Je vais y aller tout seul. Je suis très égoïste. Oui, bien sûr. Alors, ça va vous coûter très cher, mais si vous voulez faire vraiment un beau voyage, allez à Goroka ou à Mondragon pour un festival. C'est vraiment génial.
Vous atterrissez à
Darwin,
c'est ça?
Non, vous faites un Paris-Singapour, Singapour-Port Moresby, ensuite vous attendez 2 heures à l'aéroport à Port Moresby, et vous faites un Port Moresby et Mondragon, et puis là, vous avez un petit bus qui vous conduit à votre hôtel, et voilà, c'est normal.
C'est
normal.
Il y a des écoles.
Mais
j'imaginais absolument pas des
écoles
à l'importance.
C'est pour ça que je voyais Lucille qui souriait. On va faire ça là, en 2018. Je vais faire un cycle sur la modernité en Nouvelle-Guinée. Ben, je ne vais pas l'appeler comme ça parce que justement les gens vont dire oui, mais modernité versus tradition. Mais je vais faire la Papouasie aujourd'hui. Il faudrait que je trouve des. Il faudra que je m'entende bien avec l'ambassadeur et donc j'aimerais bien qu'on ouvre un cycle. Mais parce que c'est vraiment un pays, d'abord Total est en train de s'y implanter, donc il y a des contacts avec la France, on va trouver des financements. Mais non.
Ça veut dire qu'on commence.
Et puis c'est des gens solides, il ne faut pas imaginer des naïfs. C'est d'abord une population importante, c'est 10 millions d'habitants. Vous avez 45 ans d'indépendance, donc ça se passe plus ou moins bien, mais vous avez des gens solides.
Hein.
Il n'y avait pas de partie française. Il y a eu une tentative de colonisation dans les années 1870 dans le sud de la Nouvelle-Irlande, dans un endroit qu'on a appelé Port-Breton, qui était en fait une forme d'escroquerie qui avait été fait par le marquis de je ne sais plus quoi, un marquis breton, qui avait vendu des terres à des gens extrêmement pauvres. Et les gens s'étaient dit, l'Eldorado, on va pouvoir construire des plantations. Ils avaient emmené... C'est donc, en fait, c'était tout un réseau catholique. Donc, ils avaient emmené des bonnes idées et plein de briques pour construire une cathédrale. Ils sont arrivés sur une plage avec interdiction de toucher aux cocotiers, interdiction de planter la moindre chose, parce que sinon, les gens qui habitaient dans les villages du littoral leur interdisaient. Et puis, au bout de 2 ans, il y en a eu les 2/3 qui sont morts d'épidémies, de famine, etc. Et ensuite, ils ont été rapatriés sur Sydney. Donc, vous avez une toute petite communauté de Sydney qui est liée à Port-Breton.
Oui.
Et je crois qu'on est en train de ranger, donc on se donne rendez-vous la prochaine fois.
C'est ça, monsieur, la carte du... C'est ça.
Oui, oui. Il n'y a aucune raison que ça soit relié. Non, il n'y a aucune raison que ça soit relié. Parce qu'on est, on a trop d'intermédiaires entre, on a trop de cultures. C'est un petit peu comme si on trouvait des proximités entre la Sibérie et la Bretagne. Donc je suis sûr qu'on peut trouver des sites, mais sauf qu'il y a trop de choses entre les deux pour pouvoir justifier une continuité. Mais non, je ne pas du tout. Toutes les questions sont les bienvenues. Ah, moi, je n'ai rien prévu. Hein. Moi, je... Si, on a une séance avec John Evans dont je vous parlais au mois de mars pour les campagnes préparées et qui lui a été mon collègue à l'université et on y vient une fois et là je promis que je vais essayer de faire parler 2 fois dans la même semaine une fois sur justement François Girard et le monde et là on va faire ça à deux et une autre fois sur la naissance de la littérature et les premières publications de poésie enfin poser une belle idée. Donc je vais essayer de voir si ça peut passer à dire si vous voulez de caisse de résonance pour un programme à venir en 2018.
Donc 3 avant mars.
Sinon il y aura sans doute d'autres sorties d'œuvres, il faudra demander à Muriel. Mais je sais que là c'est la deuxième de la saison quand même que je présente, je l'ai présenté en septembre, si vous m'en raison. Je viens de réaliser que, que je suis très. Oui, mais on est 13 quand même à devoir faire la même chose. J'ai l'impression de faire un peu plus dans ce domaine. Mais j'en suis très heureux. Mais j'avais un peu peur parce que je me suis dit, on sait rien sur ces objets-là.
Merci.
Il est où? That was okay, I did not.
No, I understood enough to follow up.
J'ai parlé 2 fois, je lance l'association en tant que papa de Vigny aussi. Parce que c'est festival. Jamais. Méfiez-vous de cette espèce d'escroquerie avec les 2 personnes de Southern Islands qui arrivent en costume traditionnel à Paris. Ça, c'est un pur scandale pour les gens de Paris. Ils sont furieux. C'est un petit peu comme s'il y avait quelqu'un de Quimper qui arrivait avec une coiffe de bigoudaine à New York. Vous voyez comment on est les Français avec le... Jamais. Et ça serait... Ils en auraient honte. Alors, Archibald Lassiania... Effectivement, il n'y a pas d'adresse, mais je pense, étant, puisque j'ai vu le même masque plus qu'un campois la semaine dernière, je pense que c'est cette galerie.
Ah, d'accord. Et c'est plutôt la production actuelle.
C'est entièrement de la production actuelle, si c'est ce à quoi je pense. If I would have known.
If yours ends early, just send me a message.
Okay.
We'll have some extra feathers for you.
Okay. Where is it?
It's in my house with the director. I don't think you met him at my house. Olivier Brasha.
No, I don't know him.
But he has a very eclectic collection of interesting objects.
Burma, Myanmar, it's main interest.
Yes,
okay.
Yes, things for me.
Africa, India.
Yeah. Okay.
Very interesting talk.
If you feel like coming, just send me a message.
Okay.
It's in